55e aventure. Comme un renard fut, par jugement des pères, condamné à être pendu. Comment il ne le fut pas, et comment il rentra dans Maupertuis. Après avoir gravement exposé quelles étaient les clameurs d'Isengrin, de Brun, de Thibert, de Tiercelin, de Frobert, de Drouineau, de Chanteclerc et des dames peintes, Corneille et Mésange, le roi, s'adressant aux barons assemblés, « C'est maintenant à vous, dit-il, de prononcer l'arrêt de ce grand malfaiteur, ou plutôt de décider de quel supplice il devra mourir. » La réponse de la cour fut que Renard était atteint et convaincu de trahison, et que rien ne pouvait le défendre des fourches qu'il avait méritées. « Vous avez bien dit, fait le roi, qu'on dresse le gibet. Nous tenons le coupable, il ne faut pas qu'il nous échappe. » Les fourches furent dressées sur une roche élevée. On se saisit de Renard, on l'oblige à gravir la montée. Cointreau, le singe, lui fait la moue et de sa patte lui soufflette le museau. Les autres, à qui mieux, le tiraillent et le poussent. Couard, le lièvre, lui jette une pierre, mais de loin et quand il est déjà passé. Malheureusement pour lui, Renard, venant alors à tourner la tête, le vit, fronça le chef et Couard eut tellement peur qu'il se cacha sous une haie et ne reparut plus. Il voulait, dit-il, regarder de là l'exécution plus à son aise. Pour Renard, au moment d'atteindre les fourches, il eut recours à l'expédient qu'il tenait en réserve. Il annonça qu'il avait affaire d'importantes révélations. Le roi ne put se dispenser de l'entendre. « Sire, dit-il, vous m'avez fait saisir et charger de chaînes. Vous avez décidé que je serais pendu. Je suis, je l'avoue, un grand pécheur. » Mais vous ne voudrez pas m'ôter les moyens de me réconcilier avec Dieu. Permettez-moi de prendre la croix. Je quitterai le pays, j'irai visiter le Saint-Sépulcre. Si je meurs en Syrie, je serai sauvé et Dieu vous récompensera de m'avoir fait rentrer en grâce avec lui. » Disant cela, il lui va tomber aux pieds et le roi ne peut s'empêcher d'être grandement touché. Grimbert, venant en aide à son cher cousin, « Sire, je me porte garant de Renard auprès de vous. Défendez-le du supplice, et jamais il ne fera de tort à vous ni à d'autres. Recevez pour Dieu votre baron à merci. S'il est pendu, quel déshonneur pour toute sa lignée. Et vous le savez, elle est de haut parage. Combien de services ne pouvez-vous encore en attendre? Vous aurez avant 6 mois besoin d'un vaillant homme d'armes. Laissez Renard passer outre-mer. » À votre premier appel, il reviendra. Non pas, répondit Noble, car la coutume des croisés est de retourner pire qu'ils ne sont partis. Ceux-mêmes qui étaient des meilleurs à l'aller sont mauvais au revenir. Eh bien, sire, il ne reviendra pas, mais au nom du ciel qu'il parte. Noble, se tournant alors vers Renard, ah, méchante créature, toujours éloignée du droit chemin, n'as-tu pas 100 fois mérité la harpe qu'on t'avait préparée? « Merci, gentil roi, cria Renard, recevez ma foi, jamais je ne serai l'occasion de clameur. » Je ne devrais pas te croire, mais j'atteste tous les saints de Bethléem que si j'entends encore mal parler de toi, rien ne te garantira du supplice. » Renard voit bien que le roi lui accorde la vie, mais Noble fait plus encore, il lui tend les mains et le relève. On apporte la croix. C'est Brun qui, tout en blâmant la faiblesse du roi, la lui attache sur l'épaule. D'autres barons, non moins mécontents, lui présentent l'écharpe et le bourdon. Voilà donc Renard, un bourdon ou bâton de frêne à la main, l'écharpe au cou, la croix sur l'épaule. Le roi lui fait déclarer à ceux qui l'ont condamné qu'il ne conserve contre eux aucun mauvais vouloir. Il est, au moins le dit-il, résolu de renoncer à la vie de mauvais garçon. Avant tout, il tient au salut de son âme. Tout ce qu'on lui demande, Renard l'accorde sans hésiter. Il rompt le fétu avec chacun des barons et leur pardonne. L'heure de nonne arrivait quand il prit congé de la cour. Mais dès qu'il se sentit libre et qu'il eut mis les murs et le plessis entre les barons et lui, son premier soin fut de défier ceux qu'il venait d'apaiser par son repentir. Il n'accepta que messire noble. Ici, je ne dois pas omettre qu'avant de prendre congé, il avait trouvé dans le courtil du palais Madame Fière la reine, dont grande était la beauté, la courtoisie. « Dame Renard, lui avait-elle dit, Priez pour nous, outre-mer, nous prierons ici pour votre retour. » Dame, fit Renard en s'inclinant, la prière venue de haut est la chose la plus précieuse du monde. Heureux celui pour qui vous prierez, il aura grand sujet de démener joie. Oh, que j'accomplirais heureusement mon pèlerinage si j'emportais en Syrie un gage de votre amitié. » La reine alors détacha l'anneau de son doigt et le lui tendit. Renard prit à peine soin de la remercier, mais il dit entre ses dents, « Cet anneau, je ne le rendrai pour rien au monde !» Et l'ayant passé à son doigt, il avait reçu, comme on a vu, congé de toute la cour et piqué des éperons. Il fut bientôt près de la haie, où la crainte retenait encore Dame Couard le lièvre. Couard, se voyant découvert et n'osant essayer de fuir, lui dit d'une voix tremblante, « Dame Renard, Dieu vous donne le bonjour. Je suis bien content de vous revoir en bon point. C'était un grand deuil pour moi que les ennuis dont on vous accablait tout à l'heure. »« Vraiment, Couard, notre ennui vous affligeait ? Ah, mon Dieu, la bonne âme ! Eh bien, si vous avez eu pitié de notre corps, je suis heureux de pouvoir me régaler du vôtre. » Couard entend ces terribles paroles. Il veut s'échapper. Il était trop tard. Renard le saisit aux oreilles. « Par le corbieu, sire Couard, vous n'irez pas plus loin seul. Vous viendrez avec moi de bon ou mauvais gré. Je veux vous présenter ce soir à mes enfants qui vous feront bonne fête. » Et disant cela, il l'étourdit d'un coup de son bourdon. Puis il se remit en marche avec son prisonnier. Il gravit une montagne d'où l'on planait sur le vallon dont la cour du roi remplissait l'étendue. Il contemple de là ceux qui venaient de le condamner et qui murmuraient de la faiblesse de noble. Il fait un grand cri pour attirer l'attention générale et, décousant aussitôt la croix qu'on lui avait attachée, « Sire roi, dit-il, reprenez votre lambeau et Dieu maudit ce qui m'encombra de ce bourdon, de cette écharpe et de toute cette friperie. » Il leur jette bourdon, échappe et croix, leur tend le derrière et reprend. « Écoutez, sire roi, je suis revenu de Syrie où j'étais allé par vos ordres. Le sultan Noureddin, me voyant si bon pénitent, vous mande salut de par moi. Les païens ont tellement peur de vous qu'ils se mettent en fuite dès qu'on prononce votre nom. » Pendant qu'il se plaît à les gaber ainsi, Dame Couard prend ses mesures, s'échappe et, mettant une bonne distance entre Renard et lui, retourne au lieu où siégeait la cour. Il arrive, les flancs brisés, la peau déchiquetée. Il se jette aux pieds du roi, il raconte en haletant le nouveau méfait dont peu s'en est fallu qu'il ne demeura victime. « Grand Dieu !» s'écrie noble, « malheur à moi d'avoir compté sur le repentir de ce larron infâme. Sus, baron, courez à lui, et s'il échappe, je ne vous le pardonnerai de ma vie. J'accorde franchise et noblesse à tous les enfants de ceux qui me l'amèneront. » Il fallait voir alors monter à cheval et piquer des deux éperons, pêle-mêle, Cyris en grain, Brun l'ours, Tibère le chat, Belin le mouton, Pelé le rat, Chanteclair le coq, Pinte la gélie nécessaire, Ferran le roncin, Rognos le matin, Blanchard le chevreuil, Tiercelin le corbeau, Frobert le grillon, Petit Pourchaz le furet, Bossan le sanglier, Bruyant le taureau, Brichemer le cerf, et Tardif le limaçon, chargé de porter l'oriflamme et de leur montrer à tous la route. Renard les voit accourir et reconnaît aisément l'enseigne développée. Sans perdre un moment, il se précipite dans une grotte. Les bataillons ennemis lui suivent de près. Il entend déjà les cris de victoire autour de lui. « Maudit roux, tes jambes ne te sauveront pas. Il n'y a plessis, murs, fossés, fourrés, barrières, châteaux, donjons ou forteresses qui te garantissent. » Accablé d'une extrême lassitude, l'écume lui couvre la bouche et sa pelisse n'est plus à l'abri de la morsure des plus ardents. Sans effet, on va lui fermer la retraite et le retenir prisonnier. Mais en ce moment, il découvre le sommet de Maupertuis et cette vue ranime ses espérances. Il fait un dernier effort, il gagne enfin cet asile, impénétrable à tout autre. Maintenant que Noble en forme le siège, il y passera plusieurs années avant d'en briser les portes. Renard a des vivres pour longtemps. Il attendra tout à son aise ceux qui le poursuivent. Sa femme qui l'honore et le vénère, averti par les trompes de l'armée royale, vint recevoir son noble époux à la première entrée dans la compagnie de ses trois fils, Perceet, Malebranche et Rovel. Et Rovel, aucun nomme ce dernier Renardel. Il est alors entouré, caressé, embrassé. On visite ses plaies ouvertes, on les lave de vin blanc, puis on l'assoit sur un coussin moelleux. Le dîner est servi. Quoire manquait seul à la fête. Mais Dambrenard était si las qu'il ne put guère manger que le filet et le croupion d'une géline. Le lendemain, il fut saigné et ventousé. Et quelques jours suffirent pour lui rendre ses anciennes forces et la meilleure santé.